Pourquoi et comment les États se sont-ils endettés? Question nécessaire, question légitime, très mauvaise question. Parce que la réponse est double. En fait, chaque État a une histoire de sa dette, avec des facteurs qui sont propres à chaque pays. Et il faudrait donc pouvoir faire, je vais essayer de le faire très brièvement pour quelques grands États, en laissant de côté des cas d'espèces comme la Grèce ou l'Irlande, par exemple, dont tout le monde parle, mais pour bien montrer que cette question est des plus compliquées. Mais à la fin de ce premier exposé, de cette première partie de l'exposé, je dirais quand même qu'il y a des facteurs communs qui ont pesé sur la solvabilité des États. Alors, en fait, le premier déficit de budgétaire français est apparu en 1974, au moment du premier choc pétrolier, sous la Ve République, bien sûr. Depuis lors, nous avons eu 38 exercices budgétaires déficitaires. Bon. Alors, cela tente à démontrer ce qui est la ritournelle des représentants de la vulgate néolibérale. Bon, l'État est mal géré. C'est la vérité. Cependant, le problème, c'est que, quelles que soient les circonstances, nous avons eu, n'ont pas réussi à redresser, à rétablir l'équilibre du budget courant. Mais il faut que je vous donne quand même quelques 38 exercices déficitaires consécutifs, c'est beaucoup. Alors je vous donne quand même quelques indicateurs représentatifs de la dette publique. Bon, la dette publique commence à monter sous Giscard d'Estaing, mais de façon qu'on peut considérer comme négligeable. Bon. Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir, il fait faire l'état de la dette publique française, c'est 21% du PIB. 21%. Aujourd'hui, dernier chiffre publié par l'INSEE, c'est 86%, c'est-à-dire le quadruple. Bon. Alors, en 1991, nous signons Maastricht. La dette publique française est à 32% du PIB. C'est plus important, mais c'est le meilleur chiffre de l'ensemble de la future zone euro. Pour les grands pays de la future zone euro, la France est le pays le mieux situé. Donc elle peut plaider pour l'Union européenne parce qu'elle est bien placée du point de vue de son déficit public et de sa dette publique, malgré sa mauvaise gestion. 1997, et c'est bizarre, nous atteignons 57% du PIB. En l'espace de 5 années, nous gagnons 25% du PIB en termes de dette publique. Il s'est passé quelque chose. En 2008... nous sommes à 65% du PIB au moment où la crise éclate. Je me souviens d'un échange divertissant avec Madame Nicole Bric, sénatrice socialiste à la chaîne parlementaire, ou à Public Sénat plutôt. Et elle me disait que la dette publique française est en train d'exploser. Elle venait d'augmenter de 0,4 points de PIB. Bon. Alors je lui dis, Madame, attendez la suite. Nous allons voir des événements nouveaux et la dette publique va vraiment exploser, mais ce n'est pas en ce moment, c'est dans les mois à venir, les années à venir. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes à 86% du PIB. Si vous voyez donc le chemin parcouru, vous voyez bien qu'il y a eu deux dérapages très importants entre 92 et 97 et entre 2008 et 2011. Bon. Et c'est... autant on peut dire que l'État français dépense trop, autant on peut dire qu'il oriente mal certaines dépenses, autant on peut dire qu'il y a eu quand même deux événements historiques lourds qui ont pesé sur notre situation financière. La première, c'est la marche à la monnaie unique. Bon, la réunification allemande se produit à partir de 1991. La Banque centrale allemande décide une politique draconienne pour casser l'inflation qui s'est déclenchée au sein de la nouvelle Allemagne réunifiée. La France, pour préserver les chances de la future union monétaire, se cale sur la politique allemande. Elle est au sein de la zone Mark. Nous restons au sein de la zone Mark. Nous restons dans les bras du Mark. Et pour indiquer très simplement la situation, je vous dirais que l'État français est obligé d'émettre ses bons du Trésor à 9,5%, alors que l'inflation courante est de 2%. Bon. Et une récession se déclare. En l'espace de 18 mois, nous passons d'un déficit budgétaire de moins de 2% à un déficit budgétaire supérieur à 6% du PIB. Bon. Donc l'équivalent d'une aggravation aujourd'hui de 80 milliards d'euros de notre déficit budgétaire. Donc c'est un premier choix politique fait aussi bien par des gens comme M. Bérégovoy ou M. Balladur il faut absolument faire l'union monétaire. La vanité française est là. Il faut faire l'union monétaire. Nous l'avons payé. Nous l'avons payé d'une aggravation brutale de notre déficit, de notre dette publique, sur laquelle nous n'avons pas pu revenir. Deuxième grave événement, la crise bancaire et industrielle de 2008-2011. La France n'a pas connu la plus lourde récession du monde occidental, et de loin de là, mais nous avons quand même perdu plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et notre déficit s'est creusé brutalement, de 3 à presque 8% du PIB, et nous sommes toujours à un chiffre très élevé, proche de 7% du PIB. Donc, nous sommes actuellement dans une situation d'aggravation tendancielle de ce déficit vers les 100% du PIB. Mais vous voyez bien, il y a une histoire de la dette publique française. Hein, et il faudrait ajouter d'autres éléments. Quand on a fait les 35 heures, eh bien on a décidé de compenser partiellement le surcoût pour les employeurs. L'État n'a pas l'argent en caisse. Eh bien, il emprunte pour réduire les cotisations des employeurs. Quand on a M. Strauss-Kahn d'abord, puis M. Sarkozy ensuite, ont décidé de supprimer la taxe professionnelle. Ils ont décidé de prendre en charge ce qui était dû par les employeurs aux collectivités publiques territoriales. Cet argent, nous ne l'avons pas en caisse. Donc les 28 milliards d'euros correspondants, nous les empruntons pour ensuite les restituer aux collectivités bénéficiaires. Bon, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, le problème, et vous voyez bien à travers les propos que je tiens devant vous, c'est que si vous écoutez un des représentants de ce buzz médiatique que dénonce Jean-Pierre Le Goff dans son dernier article pour Le Débat, toutes ces choses n'apparaissent pas. Hein. La pédagogie n'est pas de rigueur. Bon. Alors, illustration américaine. Alors, l'illustration américaine, quand même, voilà un pays qui est là. Le plus riche du monde, qui a la productivité la meilleure du monde, avec un pays qui s'appelle la France, paraît-il. Bon, alors, ce pays a creusé son déficit et sa dette à différents moments. D'abord, l'expérience Reagan. Reagan était un pragmatique, néanmoins, il a joué la relance de l'économie américaine grâce à des réductions massives d'impôts, moins massives que celles qu'a opéré George Bush le fils, mais quand même, des réductions massives. Et le déficit, malgré la prospérité retrouvée, eh bien, le déficit américain s'est creusé. La dette publique américaine a commencé à se creuser sous Reagan. Après, il y a une période de marasme relatif, mais au miracle des nouvelles technologies, eh bien, à la fin de la période Clinton, l'État américain est en excédent, à hauteur de 1,5-2% du PIB, ce qui est magnifique. Bon. Et la dette publique américaine se réduit. Hein. Donc, quand George Bush arrive au pouvoir, évidemment, il a une récession sur les bras, la récession qui s'est déclenchée en 2001. Mais néanmoins, il peut dire qu'il a une situation de budgétaire à peu près convenable. Mais il décide de nouveau de procéder à une baisse massive des impôts américains, hein, à hauteur de 5% du PIB américain. C'est comme si la France décidait de réduire son imposition de 100 milliards d'euros. Vous voyez un peu l'impact sur nos finances publiques. Pour relancer la machine, tandis que M. Greenspan relançait de son côté la machine monétaire. Bon, la machine à émettre de la monnaie. Bon. Au bout du compte, eh bien, évidemment, le déficit s'est creusé. La prospérité est revenue, mais derrière, on a eu le retour de flamme qui a été la crise du marché hypothécaire, la crise de la dette privée américaine, et de nouveau, une forte récession s'est installée. Et aujourd'hui, la production américaine n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Et le déficit budgétaire courant américain est de l'ordre de 10% du PIB, 1400, 1500 milliards de dollars. C'est supérieur à la moyenne de la zone euro. Bon. Mais il y a une histoire de la dette américaine, là aussi, vous voyez bien. Et on ne peut pas prétendre que l'État fédéral est grevé de dépenses excessives, sauf pour ce qui concerne le secteur militaire. Bon. Donc, exemple italien. Alors, illustration italienne, pas un exemple, bien sûr. Mais l'Italie a été vraiment tout à fait imprudente et laxiste pendant de très longues années. Mais les gouvernants italiens de centre-gauche de la fin des années 90 ont pris conscience d'une situation qui avait porté la dette publique à près de 120% du PIB. Chiffre énorme. Ils ont déjà taillé dans les dépenses d'une façon tout à fait massive, ce qui fait que si vous prenez les dépenses d'éducation ou les dépenses de recherche-développement public en Italie, elles sont extrêmement faibles. Bon, ce pays vraiment ne dépense peu. Mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est limiter la dette ou la ramener vers 105% du PIB. Alors quel est le problème italien? Eh bien, le premier problème italien est très simple, c'est le service de la dette. Quand vous avez atteint un niveau de dette très ancien, il faut servir rembourser le capital et servir les intérêts. Et l'Italie doit avoir un service de la dette qui est de l'ordre de 5% du PIB, pas loin. Bon. Donc l'essentiel du déficit italien, c'est simplement le remboursement des prêteurs. Voilà. Deuxième problème italien, quand même, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est une fraude fiscale avec l'économie souterraine qui n'est pas négligeable, qui n'atteint pas le niveau de fraude de nos amis grecs, mais quand même, qui est considérable et qui... Les gouvernements italiens s'efforcent de rapatrier des capitaux évadés, de faire des amnisties fiscales, mais néanmoins, il y a un problème de ce côté-là. Et il y a un troisième problème italien, il n'y a pas de croissance. J'entendais hier le François Bayrou parler comme un illettré économique, en disant « Regardez l'Italie, c'est pas mieux que la France. » Si la dette italienne est attaquée sur le marché du crédit, ce n'est pas par la spéculation. C'est que si vous faites le calcul de la croissance italienne de ces 10 dernières années, on doit être à 0,5-0,6% par an. Il n'y a pas de croissance. Alors, le facteur principal, je pense, c'est tout simplement la fécondité très basse. Il n'y a pas d'enfants et l'Italie ne consomme pas. Voilà. Donc, la croissance est bridée par cette sous-consommation chronique. Bon. Donc, alors, vous voyez donc là aussi des facteurs qui sont bien propres à l'Italie. Bon. Alors, l'Allemagne, c'est un autre problème. L'Allemagne est quand même un pays qui a encore une dette publique située entre 75% et 80% du PIB. On ne peut pas dire que sa situation soit particulièrement favorable. Mais la particularité allemande, c'est que la moitié de la dette est dans le compte de l'État fédéral et l'autre moitié dans le compte des Länder, des régions. Ce n'est pas du tout le dispositif français ou anglais, par exemple. Donc, en fait, nous avons un État fédéral qui est rigoureux, voire trop rigoureux, et des Länder qui sont, eux, assez dépensiers, hein, avec des bureaucraties importantes et des dépenses importantes à l'échelon de Länder. Mais ça, c'est l'histoire allemande. Hein. L'Allemagne procède à la réunification de principautés. Bon. Alors, le deuxième problème allemand, c'est tout simplement le choc de la réunification. Ça, vous le savez tous, hein, il est dans votre tête, il ne faut pas l'oublier. Ils ont eu à se battre contre une réunification qui leur a coûté très cher, qui leur coûte beaucoup moins cher aujourd'hui, mais qui a quand même pesé lourd pendant un certain nombre d'années. Et puis il y a un autre facteur, le modèle de croissance allemand est déséquilibré. Là aussi, il y a très peu de consommation. Bon. Entre 2001 et 2009 inclus, la consommation allemande a augmenté de moins de 3% en tout. C'est-à-dire que si vous mettez les dépenses médicales de côté, qui augmentent mécaniquement pour différentes raisons, mais la consommation des Allemands a baissé. Voilà un pays surpuissant, industriellement et économiquement dans la zone euro, qui consomme moins potentiellement d'année en année, avec aussi un problème de fécondité, mais aussi une compression des salaires destinée à permettre à l'Allemagne de rester super compétitive dans la zone euro et compétitive à l'échelon mondial. Bon, voilà. Alors, l'illustration espagnole, c'est une histoire de château en Espagne, bien sûr. En 2007... le budget espagnol est en excédent. Lui aussi de l'ordre de 1,5% du PIB. Alors évidemment, l'Espagne bénéficie de ce qu'on appelle les fonds de cohésion structurelle, c'est-à-dire qu'elle reçoit de l'argent de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suède, pour inaugurer ses autoroutes, ses lignes à grande vitesse, hein, telles que la seule Madrid-Séville qui a été inaugurée au printemps. Et néanmoins, ce pays bénéficie tout simplement d'un boom de la consommation et d'un boom de l'immobilier qui s'est terminé de façon fracassante par une faillite de nombreux débiteurs et une faillite virtuelle du système bancaire espagnol dont on parle trop peu dans la presse. Mais néanmoins, ce pays a connu une chute dramatique de l'emploi sur 100 emplois, 100 postes de travail. Moi, je parle toujours de postes de travail, en vieil économiste de la vieille école. 14 ont disparu, hein, à l'occasion de la crise, vous voyez, 86 au lieu de 100, sans compter les emplois au noir qu'on ne peut pas comptabiliser. Bon, c'est dire l'ampleur de la récession, même si tous les emplois n'étaient pas des emplois à forte productivité, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, quand même, c'est un désastre. Bon, alors ce désastre a porté le déficit espagnol à plus de 10% du PIB, et ce pays qui était l'un des meilleurs de la zone euro, j'aime pas ce langage de maître d'école, quand c'est à dire il y a des bons élèves, il y a de mauvais élèves. Mais enfin, il avait une dette publique de 40% du PIB, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Seulement, on en parle aujourd'hui, et elle tend vers 80% du PIB. Et surtout, on pense que la récession qui s'est installée va se poursuivre et s'aggraver au cours des années qui viennent. Donc là aussi, sachez qu'il y a une fraude fiscale importante en Espagne, avec la bienveillance de nombreux, surtout dans le sud du pays, avec la bienveillance des inspecteurs des impôts, qui ne pourchassent pas le contribuable espagnol comme les inspecteurs des impôts français pourchassent le contribuable français. Bon, on va reparler de cette question parce qu'elle est importante. Alors, et je voudrais remarquer au passage pour l'Espagne que le bénéfice considérable qui a consisté à faire financer l'essentiel de ses infrastructures par les partenaires de la zone euro, sous forme de subventions et pas de prêts, a abouti à un échec. Échec aussi en Grèce, échec au Portugal, échec en Irlande, pays bénéficiant de ces fonds de cohésion structurelle sur lesquels il faudra peut-être revenir dans le débat. Alors l'illustration anglaise, et puis j'en aurai fini avec les grandes illustrations, je réserve l'Irlande et la Grèce pour le débat, qui sont vraiment des cas d'espèce. Alors là aussi, l'illustration anglaise, ce pays a trop reposé sur une spéculation immobilière sur l'immobilier ancien, et aussi sur le développement hypertrophié du secteur financier. Le secteur financier a été très rudement atteint par la crise, le secteur industriel, qui n'est pas aussi négligeable qu'on le dit, a été frappé lui aussi. Et l'Angleterre est aujourd'hui en difficulté importante. Sa dette publique de 40% du PIB a été multipliée par deux, voire plus, avec un point essentiel, les secours apportés aux banques. Gordon Brown a déboursé 117 milliards de livres sterling pour empêcher la cessation de paiement de Royal Bank of Scotland, de Northern Rock, de Lloyds de TSB et de HBOS, les deux grands prêteurs du marché du crédit, situés presque toutes ces banques, sauf Northern Rock, qui était à Newcastle, étaient à Edinburgh. C'est Prince Street. Prince Street est tombé en faillite et donc il a fallu supporter leur secours. Mais donc, les pertes, donc les secours ont grevé les finances publiques anglaises, qui sont aujourd'hui encore avec un déficit tendanciel de l'ordre de 9% du PIB. C'est considérable. Et une croissance qui est à peu près à zéro. Alors, un point qui soutient actuellement l'économie anglaise, et que nos amis journalistes économiques oublient de souligner, la livre sterling a baissé d'environ 25% vis-à-vis de l'euro depuis un peu plus de 4 ans maintenant, depuis septembre 2007. Mais l'économie anglaise est quand même soutenue quelque part par cette évaluation favorable de la livre sterling, en particulier beaucoup de petites entreprises exportatrices du secteur de l'industrie et des services. Bon, j'aimerais bien avoir la parité de la livre sterling en France. La dégradation profonde des soldes budgétaires dans tous les pays concernés a procédé d'abord de la chute des recettes fiscales. Bon, une illustration française, l'impôt sur les sociétés passe de 48 milliards d'euros à 21 milliards d'euros en l'espace d'un an, entre 2008 et 2009. Et je crois que ce chiffre n'inclut pas un dispositif particulier, je vais vous embêter avec des questions techniques fiscales, le carry-back, le report des pertes en arrière, qui permet à une entreprise en déficit de rapporter son déficit à des exercices bénéficiaires antérieurs et à demander un virement compensatoire au Trésor. Ben, ce qu'elles ont fait, bien sûr, en 2009. Alors je crois que ça n'est pas pris en compte. Et ça vient s'ajouter à cette chute de l'impôt sur les sociétés. Mais l'impôt sur les revenus a baissé, les chômeurs ont payé moins d'impôts. La TVA a baissé et la TIPP a baissé. Et la taxe sur les transactions immobilières a baissé. Bon. Alors, les points communs à tous ces pays, en Occident, je parle de l'Occident, bien sûr, les pays asiatiques, l'Afrique, c'est autre chose. Bon. Alors d'abord, il y a tendanciellement quand même, surtout en Europe, une croissance qui va en s'affaiblissant décennie après décennie. Décennie 70 quand même, on est à 2,7, 2,8 en France, en croissance annuelle. Bon. C'est ce que projettent fantasmatiquement dans leur esprit les candidats à la présidentielle, pouvoir exercer 5 années à l'Élysée avec une croissance de ce genre, et on pourra dire, eh bien voilà, nous avons agi pour le bien du peuple français. Mais la croissance s'est affaissée. Alors il y a eu des moments d'amélioration. la révolution, la troisième révolution industrielle dont a bénéficié les États-Unis à la fin des années 90, a vraiment été un facteur, un booster de la croissance américaine. Et l'Europe elle-même a connu deux périodes très favorables. Il faut garder dans votre tête, hein, 87-90 inclus, 97-2000 inclus. C'est pas compliqué. Une période de une croissance supérieure à 3%, voire 4%, avec beaucoup de création d'emplois dans le secteur privé et le secteur marchand, et avec des recettes fiscales et sociales qui s'améliorent d'année en année. Bon. Alors, ces deux périodes se caractérisent par deux points communs. Le dollar est fort, les monnaies européennes sont faibles. Bon. Et la demande américaine est très forte. Et même entre 1997 et 2000, eh bien, l'Asie ne compte pas de façon aussi décisive qu'elle compte aujourd'hui. Alors, donc, premièrement, une croissance qui tente à s'affaiblir tendanciellement de décennie en décennie. Vieillissement démographique. Bon, il y a 20 ans déjà, le directeur de la protection sociale du CNPF, qui est aujourd'hui disparu, me disait, Jean-Luc Gréau, ben, nous gagnons un trimestre d'espérance de vie chaque année. Chaque année, nous devons, il était responsable du régime de retraite, de la maladie et de tant d'autres choses, nous devons servir un trimestre de pension de retraite supplémentaire et chaque année, nous devons pourvoir aux dépenses de santé et de dépendance des personnes concernées. Donc l'épure devient compliquée. Il y a 20 ans. Que dire aujourd'hui ? Ce vieillissement démographique atteint tous les pays occidentaux, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, etc. Bon. Alors, et on ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas parler de niche à supprimer pour réduire ce qui est dû. Mais attention, il y a peut-être des solutions quand même. Bon. Alors, il y a aussi un troisième facteur, je crois, qui est commun, c'est une faiblesse tendancielle des recettes fiscales dans un contexte de concurrence internationale. Il est très difficile de relever certains impôts et même de maintenir un taux minimal d'impôts lorsque vous avez des concurrents, des partenaires et concurrents qui pratiquent des impôts à bateau. Il n'y a pas que l'Irlande avec ses 12% d'impôts sur les sociétés, mais aussi l'imposition des fortunes, le régime effectif d'imposition des revenus. J'ai parlé de fraude fiscale tout à l'heure. Bon, les Grecs ou les Espagnols ne payent pas exactement l'impôt qu'ils devraient payer. Et tout cela contraint quand même les États à ne pas trop mettre la pédale, d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur fiscal. Bon, voilà. Ça, c'est un point qu'on oublie, mais qui a pesé, hein, sur le... Bon. Alors, en même temps, j'ai conscience de parler devant des représentants des ressortissants d'un pays où la pression fiscale reste l'une des plus élevées au monde. Bon, bien. Alors, mais je prends un exemple quand même illustratif. Le taux d'impôt sur les sociétés était de 52% en première année de du mandat de Giscard d'Estaing. 52%. Le taux effectif des sociétés non cotées est aujourd'hui de 26%. Pour les sociétés cotées, il est de 14%. Pour le CAC 40, il est de 8%. Vous voyez donc la différence. Je ne souhaite pas qu'on revienne à 52%, mais un taux de 26% pour tout le monde me paraîtrait tout à fait équitable. Bon. Alors. Et puis alors, bien sûr, il y a le service de la dette. Hein. La dette nourrit la dette, plus ou moins selon le cas, mais tous les pays qui ont effectivement une dette ancienne ont effectivement un service de la dette important. Le français représente aujourd'hui 50 milliards d'euros, hein. C'est 2,5 points. Et donc c'est autant qui manque pour pourvoir certains besoins ou pour relâcher justement la pression fiscale sur ceux qui sont les plus chargés. Bon. Alors... Le dernier point, quand même, c'est l'affaire de la monétisation de la dette. Hein, bon. Ne pas oublier que sous la 4e et même au début de la 5e, eh bien, notre vieille Banque de France faisait des avances au Trésor, et qui étaient effectivement plus ou moins monétisées selon le cas. Ce n'était pas une monétisation massive. C'était un facteur d'inflation résiduelle, ne disons pas le contraire, mais en même temps, ça allégeait les besoins de trésorerie de l'État, et ça a allégé le service de la dette. À partir de 1973, on s'est interdit cela, et pratiquement tous les pays du monde se sont interdit cela. Pourquoi ? Parce que les banquiers et les assureurs l'ont demandé. Ils ont voulu que la dette publique, ce soit eux qui s'en occupent, premièrement, et deuxièmement, ils ont voulu que cette dette publique ne soit pas financée par la création monétaire. Je conclurai ma partie avec une observation toute simple, le seuil critique est atteint partout. si nous étions partout entre 50 et 60% du PIB en termes de dette publique, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Le seuil critique est atteint, c'est-à-dire avec des chiffres de l'ordre de 90% du PIB pour l'Occident. Et c'est évidemment un seuil qui permet de dire que ces dettes ne seront pas remboursées. Nous n'en avons pas les moyens. Bon. Attention à une chose essentielle. Hein. Comme l'essentiel de la dette publique est dans les comptes des banques et des assurances. Les fonds de placement comptent aussi un petit peu. Ces organismes ne vont pas spéculer contre leurs titres de créance. Ils ne vont pas décoter ce qui se trouve dans leurs comptes. Ils ne vont pas se suicider. Ils sont déjà au bord du gouffre. Ils vont pas en plus aggraver la situation. Vous voyez déjà comment, le 21 juillet dernier, on a décidé d'une décote de la dette grecque de 21%, ce qui est important. Mais on n'est pas allé jusqu'aux 50 ou 60% qui auraient été la solution du problème. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu trop décoter ce qui se trouve dans les comptes des banques françaises, allemandes, etc. Bon. Alors, banques françaises et allemandes, c'est elles qui détiennent la banque grecque, la dette grecque. Bon. Donc, ce n'est pas les gredins de la corporation bancaire, ce sont des gredins, mais ils ne spéculent pas contre les dettes publiques. Bon. Alors, ceux qui spéculent, ce sont évidemment les fonds spéculatifs, les hedge funds, et ce qu'on appelle à tort les investment banks, qui sont simplement des fonds spéculatifs à grande échelle, hein, les JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, j'en passe, et de pire. Bon, alors eux spéculent, mais attention, il faut attirer l'attention sur un outil financier qui a été dévastateur dans la crise financière américaine, la crise privée américaine, et qui pourrait être dévastateur, ce sont les CDS, Credit Default Swaps, ce sont les primes d'assurance qui sont émises par les gens qui ont des créances et qui ne sont pas tout à fait sûrs que leur débiteur va s'acquitter de sa dette. Donc, ils s'assurent auprès de quelqu'un. Bon, cela donne lieu à un contrat qui s'appelle le CDS. Le problème, c'est que ce CDS peut voler de main en main, et surtout qu'on peut faire plusieurs CDS sur une même dette. Bon. Ce qui fait que d'ailleurs, la dette privée américaine de 14 000 milliards de dollars avait donné lieu à des CDS d'un montant de 65 000 milliards de dollars. Bon. Mais les CDS ont fait faire faillite à Bear Stearns, à Lehman Brothers, à AIG. Bon. Alors, la question à laquelle je ne peux répondre, combien y a-t-il de CDS sur les dettes publiques européennes ? Il y en a aux États-Unis. Bon. Alors, en revanche, il y a un problème qui n'est pas un problème de spéculation au sens propre, il est simplement un problème de défiance. Bon. Les gens savent bien que les banques sont en difficulté dans leur majorité. Hier, les fonds des agences de notation commençaient à décoter le secteur de l'assurance vie. Bon, l'assurance vie se nourrit d'immobilier et d'obligations publiques et privées, essentiellement. Bon. Et d'action aussi, à un moindre degré. Donc, ils ont commencé à décoter ce secteur. Bon. Autrement dit, il y a une défiance naturelle, mais cette défiance est la résultante d'une erreur d'appréciation, que je tiens à souligner de façon la plus lourde possible. Nous avons cru à une reprise économique véritable, à partir de 2009, avec une croissance durable, en Occident, des deux côtés de l'Atlantique, sauf peut-être deux ou trois pays qui manqueraient le train de la reprise. Or, cette reprise a été un feu de paille. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de croissance zéro, quasiment, des deux côtés de l'Atlantique. Donc il y a un vrai ralentissement. Hein, les financiers se heurtent à ce schéma économique, à cet énoncé économique qui est totalement perturbant. On ne peut pas compter sur une vraie croissance économique. Et par conséquent, les actifs financiers qui sont liés directement ou indirectement à la croissance économique, sont fragiles. Bon, voilà. Donc, méfiance à la bourse, méfiance sur les marchés du crédit, et de nouveau, les banques ne se prêtent plus les unes aux autres. Hein. Bon. Alors, que peuvent faire les États et la BCE ? Quelle question saugrenue ! Alors, la BCE, je vais commencer par la BCE quand même. Attention, la BCE peut faire certaines choses. Elle l'a fait, d'ailleurs. Elle peut d'ailleurs les faire en contradiction avec le traité de Maastricht et ses statuts. La première, c'est de racheter, ce qu'elle a fait, une fraction de la dette publique grecque, portugaise, irlandaise, espagnole, italienne même. Mais alors, je tiens à souligner un point essentiel. Hein. Elle peut traiter le problème de liquidité. Hein. Les financiers et les économistes distinguent classiquement entre le problème de liquidité et le problème de solvabilité. La liquidité, ça veut dire que vous avez une crise de confiance sur le marché du crédit où vous opérez, où vous empruntez. Il faut qu'un opérateur extérieur, tel que la Banque centrale, intervienne en catastrophe pour injecter des liquidités et rétablir la confiance le temps nécessaire. À ce que cette confiance se rétablisse de façon spontanée. Bon. Ça, elle peut le faire. Elle peut donc, la Banque centrale peut racheter des quantités non négligeables d'obligations, mais elle ne peut pas aller trop loin, elle ne peut pas prendre en charge les dettes publiques de la zone euro. Hein. Si elle passait au rachat d'obligations françaises ou belges, par exemple, ça signifierait que la zone euro est morte, dans les faits. Bon. Alors, elle pourrait faire aussi une autre chose qu'elle ne fait pas. Bizarrement, les CDS, dont je parlais tout à l'heure, il suffit qu'elle rachète des CDS pour casser la... Elle suffit qu'elle rachète les CDS pour casser la spéculation sur les CDS. Bon. Mais ça, c'est un instrument qu'elle n'a pas utilisé jusqu'à présent. Mais je voudrais quand même insister sur ce point. La Banque Centrale Européenne ne peut pas tout faire. Hein. Elle n'est pas faite pour ça, d'ailleurs. C'est une situation d'exception. Elle finance actuellement à bateau l'ensemble du système bancaire européen, et non seulement à court terme, mais aussi à des échéances de plusieurs mois, et elle ne peut pas aller au-delà de cela. Donc elle se trouve devant une épure tout à fait nouvelle, et on ne va pas inventer une nouvelle banque centrale pour résoudre le problème de la dette publique, des dettes publiques européennes. Bon. Alors que peuvent les États? Mais c'est très clair. Les États sont dans les plus grandes difficultés, leur crédit s'affaisse ou s'effondre. Comment peuvent-ils en même temps venir au secours des agents financiers qui ont leur titre de créance dans leur compte. Hein, je veux dire, recapitaliser les banques. Ce qu'on appelle la recapitalisation des banques, c'est tout simplement un subventionnement des banques qui prend la forme d'une émission d'actions nouvelles sur le marché et qui est souscrite par l'État, tout simplement. Bon, mais c'est une subvention. Une gestion d'argent frais pour boucher les trous, hein, pour éponger une partie du passif. Bon. Donc, là, nous avons vraiment l'indice marquant de la défaillance des acteurs financiers, imprudents jusqu'à l'aveuglement, et qui sont maintenant en grave difficulté. Alors, que penser de ce qui a été fait depuis 9 mai 2010 avec le Fonds européen de stabilité financière, les différentes mesures d'accompagnement qui ont été prises depuis, et qui suscitent, on a l'impression, quand on voit ce qui se passe en Europe, que les gouvernements et les parlements ne s'occupent que de ça. Ils se réunissent sans cesse, ils parlent sans cesse. Nous sommes Mme Merkel, M. Sarkozy, M. Berlusconi, ne parlons pas de M. Papandréou, le malheureux, le vrai martyr, Saint Georges Papandréou. Mais on ne parle que de ça. Et les parlements votent sans discontinuer des mesures d'approbation de ce qui a été décidé dans les sommets. Bon. Les 20 milliards d'euros que nous avons prêtés sur 2 ans à la Grèce sont à fond perdu. On ne les reverra jamais. Bon. Et le Fonds européen de stabilité financière est un contresens violent dans la mesure où la seule solution pour résoudre le problème d'agents économiques surendettés, qu'il s'agisse de particuliers comme vous et moi, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse d'États, c'est de réduire la dette, le montant dû et le réchelonner si c'est possible. C'est-à-dire, si vous pouvez rembourser 70, on n'exige pas de vous 100, 110 ou 120. Bon. Seulement voilà. Si on opère cette coupe, cette réduction de la dette, salvatrice, le secteur financier s'effondre. Voilà. Nous sommes donc dans une spirale vicieuse qu'il faut maintenant essayer de traiter, puisque nous allons devoir traiter dans l'urgence, semble-t-il. Mon dernier article pour l'expansion, la chronique est parue le 28 septembre, elle a été rédigée le 4 septembre, elle s'intitule « La banque saute, virgule, que faire ?» Bon, alors, s'il faut se projeter en avant. Alors, en conclusion, l'euro devait être un bouclier, il ne l'a pas été. Bon, c'est un simple constat. Il a même été longtemps un inhibiteur des difficultés éventuelles. Hein. Mais dès janvier 2009, l'euro, on commençait à penser que l'euro n'était pas un bouclier. Et par conséquent, l'euro n'était pas un bouclier. Et donc, on a commencé à dégrader les dettes de certains États. On s'est aperçu que l'Allemagne, ce n'était pas la Grèce, que les Pays-Bas, ce n'était pas le Portugal, que la France, ce n'était pas l'Espagne, etc. Et donc, on a fait un traitement différencié, mais douloureux pour certains États, des dettes publiques considérées. Mais ça a été un inhibiteur, parce que pendant de longues années, on s'est dit tout va bien. Alors il va falloir réorganiser le système bancaire. Je renvoie à mon article paru en 2009 dans le débat pour un nouveau système bancaire. Avec, on casse en trois morceaux les banques, les activités de dépôt, hein, ce sont des coffres-forts électroniques ou informatiques, les activités de crédit de notre côté, c'est un autre métier, et puis le trading, dont le mieux est qu'il disparaisse dans sa quasi-intégralité. Bon, alors, et puis mais le problème, non, le problème important, c'est quand même le crédit, les mauvaises créances. Hein. Dès que j'ai parlé de Dexia, il faut créer des poubelles pour isoler les créances toxiques et puis voir ce qui va en résulter. Mais à côté, il va falloir probablement créer en urgence un nouveau système de crédit. Et c'est là un véritable tour de force à accomplir, pour lequel aucun de nos dirigeants politiques n'est prêt. Je terminerai par un propos pessimiste et un propos optimiste. Propos pessimiste, les dirigeants politiques, c'est clair, gagnent du temps. Des deux côtés du Rhin, dans l'ensemble de la zone euro, on essaye d'arriver aux échéances électorales sans que le système saute. Bon, c'est pourquoi Mme Merkel accompagne le mouvement, alors que normalement, elle doit essayer de rejeter dans les ténèbres extérieures la mauvaise Europe du Sud pour ne garder que la bonne Europe du Nord. Mais elle gagne du temps, et Nicolas Sarkozy gagne du temps, et les dirigeants socialistes, candidats aux présidentielles, espèrent que un délai providentiel jusqu'à leur victoire ou au prochain scrutin. Mais l'optimisme est de notre côté. Je crois enfin que depuis quelques semaines, cet été, l'opinion publique a commencé à bouger. L'opinion publique est moins niaise qu'elle ne s'est montrée depuis maintenant près de 30 ans. Une fraction non négligeable de cette opinion commence à prendre conscience que nous sommes au bout d'une expérience, hein, au bout de l'expérience néolibérale, qui a pris la forme d'une aventure, et d'une aventure dangereuse. Il y a là l'esquisse de quelque chose qui se prépare. Le problème, c'est que nos dirigeants n'y sont pas préparés dans leur tête. Ils n'ont pas fait le basculement. Et au contraire, ils craignent par-dessus tout d'arriver dans une aventure. Hein, un changement de politique serait une aventure, pensant que ce que nous vivons n'est pas déjà une aventure. Voilà.